Après la mort du maître, les disciples sont réunis. Ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Nous prions. Nous voici réunis en ton nom et tu viens au-devant de nous pour donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets, à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Nous voici réunis en ton nom et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton Esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Et je vous invite à chanter « Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison ». Nous louons Dieu avec des extraits du psaume 107. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle, il provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues portées jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les humains. Que nos chants joyeux, psaume 81, la première et la quatrième strophe, page 96, psaume, donc première et quatrième strophe. Prenez place. Un pêcheur lave ses filets lorsqu'un prédicateur lui demande s'il peut monter dans sa barque pour s'éloigner du rivage et parler à la foule qui le presse. À la fin de son discours, le prédicateur se tourne vers le pêcheur et lui dit « Avance en eau profonde et jette tes filets pour pêcher ». Le pêcheur sait que la demande ne rime à rien. Il a travaillé toute la nuit sans prendre le moindre poisson. Mais il a envie d'avoir confiance dans le prédicateur et lui dit « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Il lance son filet et accroche une grande quantité de poissons. Il appelle ses compagnons pour l'aider à remonter le filet. Les poissons sont de plus en plus nombreux au point que la barque s'enfonce sous leur poids. Soudainement, un doute s'insinue dans son esprit. Qui est-il, celui qui lui a demandé de jeter son filet? Serait-il plus qu'un simple prédicateur? Pourquoi la pêche est-elle si abondante? Quand il voit cela, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Je vous invite à la prière. Dans notre travail, nos occupations, notre vie quotidienne, nous nous laissons gagner par la force de l'habitude. Nous sommes tellement agités, préoccupés, bousculés, que nous devenons aveugles en face de ta simple présence. Tu es la vie et nous nous dispersons dans la futilité. Tu es le souffle et nous nous épuisons dans nos calendriers. Tu es parole et nous restons attachés à tant de banalités. Délivre-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux et nous te verrons comme une urgence. Ouvre nos oreilles et nous entendrons ton silence. Ouvre nos lèvres et nous proclamerons ton espérance. Ouvre nos mains et nous accueillerons ta délivrance. Ouvre nos pas. Et nous entrerons dans la danse. Tu étais dans la barque des disciples quand la pêche était abondante et quand la tempête faisait rage. Viens maintenant prendre la barre de notre propre navire. De tous mes maux, il me guérit. Lorsque le pêcheur Pierre est tombé aux genoux de Jésus, ce dernier lui a répondu « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Si la repentance est l'attitude première de l'être humain lorsqu'il rencontre son Dieu, Jésus ne veut pas que nous restions à genoux. Il nous veut debout. Aujourd'hui, il nous relève pour que nous devenions des témoins d'espérance. Aujourd'hui, il nous relève et nous dit « Sois sans crainte, vis debout. » Je vais faire de toi un homme, une femme, libre. Je vous invite à vous lever pour chanter « Ô ma joie et mon espérance ». Écoutons maintenant ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire une fois que nous sommes libérés. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenu semblable aux humains. Seigneur, de ton esprit, remplis nos êtres. Cantique 44, 03. Prenez place. Deux lectures pour aujourd'hui, dont une est la lecture du jour de dimanche dernier. Je vous expliquerai tout ça. Donc, première lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, et la seconde lecture sera toujours dans l'évangile de Marc, mais au chapitre 8. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes, parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse et rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous rends, parole qui nous permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Je vais vous lire Marc 4, les versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»
La deuxième lecture est donc toujours dans Marc, chapitre 8, les versets 11 à 21. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12. Lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ?
Et nous chantons, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Thank you.
Disciple du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Prenez place. J'avais établi une tradition. J'avais décidé de prêcher à tous mes cultes d'installation et de départ sur le même épisode. Et je n'ai pas respecté cette habitude en arrivant ici, puisque ce n'est pas moi qui ai prêché lors de mon culte d'installation, mais mon collègue et ami Bernard Mourou. Eh bien, figurez-vous que ce fameux passage, c'est celui de Marc racontant l'épisode généralement appelé la tempête apaisée, que nous venons d'entendre et qui est normalement celui proposé pour dimanche dernier. Mais suite à des événements familiaux, j'avais demandé à Marie-Yvonne Bonjour de permuter avec moi, d'intervertir nos interventions. Elle a accepté et je l'en remercie. Il y a une deuxième conséquence dont je me suis rendu compte à cette interversion, dont je ne me suis rendu compte que hier soir, c'est que le temps de méditation que j'ai proposé à Réveil pour la chronique biblique de chaque mois était un extrait de ma prédication de ce jour. Donc les lecteurs de Réveil attentifs parmi vous auront une demi-prédication seulement, puisqu'ils connaissent déjà l'autre partie. Mais bon, pas très grave. Donc lors de ces prédications d'arrivée et de départ, avec un manque d'originalité, mais consternant, je faisais un parallèle entre la barque malmenée par les éléments et l'Église. J'y affirmais d'une part que nous commencions ou terminions une traversée en commun et que cette traversée pourrait être orageuse. Mais d'autre part que si nous étions collectivement responsables de la vie de notre Église locale, nous n'en étions point les sauveurs, ni d'elle, et encore moins de l'Église universelle, ce rôle étant déjà échu au Christ Jésus. Bien que tout cela soit assez convenu, je vous le concède, je reviendrai sur ces points parce qu'ils sont néanmoins essentiels. Mais avant, j'aimerais faire un détour par le second récit de navigation. Alors, enfin, il n'est pas vraiment question de navigation, c'est juste que la scène a lieu sur un bateau. Et les disciples n'ont pas pris assez de pain. Ils n'en ont amené qu'un seul, les malheureux. Ils ont négligé une partie de leur responsabilité. Alors forcément, ils culpabilisent. Comme je les comprends. Mais qu'ils ont tort. Tort d'avoir oublié le pain, certes, soit, mais surtout tort de culpabiliser. On entend parfois dire que le judéo-christianisme a inventé le sentiment de culpabilité. C'est à la fois un lieu commun et une ânerie, ce qui va souvent d'ailleurs de pair. Que des églises, en tant qu'institution de pouvoir, l'aient utilisé pour contrôler les consciences, c'est une évidence. Qu'il serait malhonnête de nier. S'il arrive qu'elles le fassent encore, d'autres ont pris le relais, associations, partis politiques. Ils le font parfois dans un esprit louable, avec des objectifs louables, mais refusez de vous laisser embarquer dans de telles entreprises. Agissez par devoir, agissez par conviction, agissez par sens de la justice, agissez par amour. N'agissez jamais par culpabilité. À ceux qui essayent de vous culpabiliser en vous montrant des images d'enfants malades, d'animaux en voie de disparition ou que sais-je encore, à cela répondez « Désolé, mais la culpabilisation, ça ne marche pas avec moi. » Même si ce n'est pas vrai. Surtout si ce n'est pas vrai. Les gens qui font ça, quelles que soient leurs intentions, tentent de vous manipuler et sont par conséquent malhonnêtes. Rien de bon ne peut en sortir. Convainquez-nous, messieurs, dames, responsabilisez-nous, mais cessez de nous culpabiliser. La nuance peut être fine, mais elle est essentielle. Que d'autres aient pris le relais sur le marché juteux de la culpabilisation n'excuse en rien les errements des églises, car leur mission était et est toujours d'annoncer l'Évangile, et l'Évangile, c'est le contraire de la culpabilisation. C'est l'anti-culpabilisation. Et c'est justement cela qui redouble la colère de Jésus. Il est au début de la scène très remonté contre les pharisiens et il dit à ses disciples de se garder de leur levain. Le levain, dans la Bible, c'est la plupart du temps quelque chose de négatif, d'impur, quelque chose qui va corrompre la pâte, la souiller. Pour les rabbins, ce sont les mauvaises inclinations des humains. Parce qu'il est un sentiment de culpabilité plus nocif, plus pernicieux encore, c'est celui qu'on s'inflige à soi-même. Les disciples sont en plein dedans. Ils ont oublié le pain et, noyés dans leur culpabilité, ils interprètent tout sous cet angle-là. Le mot « levain » prononcé par Jésus ne peut être qu'un reproche indirect à leur faute dans leur esprit. Ils n'écoutent pas ce qu'il leur est dit, ils ramènent tout à leur culpabilité, à leur obsession. Ils sont persuadés que tout le monde, et Jésus en premier, et tout en tant qu'eux, focalisés sur leurs manquements. Et ça, nous l'avons tous vécu. Même les compliments sont parfois interprétés en reproches. Tout n'est envisagé que sous le prisme de cette faute, dont on a l'impression que chacun nous la renvoie à la figure de manière dissimulée, fourbe. Le sentiment de culpabilité obscurcit nos relations aux autres, et à Dieu, et à nous-mêmes. Lorsque Jésus évoque devant eux les deux multiplications des pains, il tente de leur faire comprendre qu'ils se fichent et contrefichent du nombre de pains emportés, et met le doigt sur le fait que les disciples sont très exactement en train de faire ce contre quoi il les a mis en garde. Hyper-scrupulosité liée à une insécurité, un sentiment d'illégitimité et d'auto-justification. Par conséquent, d'accusation d'autrui, puisque la meilleure défense, croit-on à tort, c'est l'attaque. Or, et c'est cette nouvelle en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ, Dieu n'est pas focalisé sur nos fautes. Il n'est pas obsédé par nos péchés. Et figurez-vous, vos frères et vos sœurs non plus. Ouais, s'il y a parmi nous quelques esprits chagrins, le regard toujours fixé sur les manquements des autres, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. Ils font tout seuls leur propre malheur. Oui, mais tu nous as vendu une histoire de tempête, de traversée dangereuse, et tout ce que nous avons eu à présent, ce n'est que quelques gaillards qui, maugré dans une barque, parce qu'ils sont penauds d'avoir oublié le casse-croûte. Vous avez raison. Toute traversée comporte des risques. Comme le lac de Génézaret, notre monde peut passer d'un calme plat à une tempête déchaînée en moins de temps qu'il n'en faut pour dire dissolution, par exemple. Il peut y avoir des disputes internes, des querelles de personnes difficilement résolubles ou des conflits théologiques qui peuvent l'être, pour peu que chacun de nous fasse démonstration de ce qu'on appelait autrefois la charité chrétienne et qu'on appelle plutôt aujourd'hui, sous un terme un peu trop consensuel, d'amour, nous pouvons résoudre nos conflits. Nous ne sommes pas à l'abri non plus d'une tempête mondiale, guerre ou pandémie, fléau que nous croyons définitivement banni de notre monde, du moins occidental. Que ferons-nous alors? Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous ferons ce que nous avons toujours fait, ce qu'ont fait les disciples dans leur barcasse. On s'agite, on abandonne certaines choses, on en ajoute d'autres et on modifie les dernières. On survit, tant bien que mal, à la traversée. Mais je pose la question, est-ce que comme les disciples, nous allons réveiller le maître? Et si nous le faisons, est-ce une bonne chose? Et le faisons-nous au bon moment? Parce que Je ne veux pas avoir l'air de toujours critiquer ces pauvres disciples, mais ils le réveillent au tout dernier moment selon eux. Lorsqu'ils ont l'impression que la barque va couler, eux avec le bateau et le Messie avec eux. Ils auraient pu, à mon sens, mais c'est un sens à distance, voyez, les pieds bien au sec, soit ne pas réveiller, soit le réveiller plus tôt. Pourquoi ne pas le réveiller? Eh bien, de l'équipe, disons-le, Jésus figure parmi les moins compétents en matière de navigation lacustre. Permettez-moi de vous narrer une anecdote de mes vertes années et d'évoquer ainsi mon père. Quand j'étais apprenti conducteur, lors d'un retour de vacances, le reste de la famille était rentré en train et mon père et moi ramenions la voiture pleine de bagages pour que je fasse des kilomètres. À un moment donné, j'ai réussi un dépassement et fier de moi, j'ai quitté du regard l'approbation de mon père. Il dormait. J'ai d'abord été quelque peu vexé, mais je me suis finalement dit que s'il dormait, c'est qu'il se sentait en confiance. Ainsi, dans la barque, si Jésus dormait, ce n'était pas par négligence ou inconscience, ni pour mettre notre équipage à l'épreuve, mais parce qu'il avait confiance. Jésus nous fait confiance. Et donc, on peut imaginer que les disciples avaient les compétences nécessaires pour gagner d'eux-mêmes le bon port, et que c'est un manque de confiance en eux-mêmes et en la bénédiction de Dieu qui les a fait paniquer. Mais on peut aussi se demander si ce n'est pas par orgueil ou vanité qu'ils ne l'ont pas réveillé plus tôt, de peur de passer pour des bras cassés ou des marins de pacotille. Et s'il y a des gens qui se tournent vers Dieu dès que quelque chose ne va pas, le réformé de base a plutôt tendance à vouloir tout régler par lui-même avant d'appeler Dieu, comme s'il craignait d'être accusé d'être un mauvais gestionnaire. Encore la culpabilité, le sentiment d'illégitimité qui fausse notre image de Dieu. Une fois de plus, nous l'imaginons focalisé sur nos manquements. Laissez-moi vous passer un extrait du chanteur Michel Buller, ce n'est pas une chanson, mais c'est un texte sur musique, qui s'appelle « L'éloge des Vaudois ». Court extrait. Normalement, ça marche.
Deux Vaudois pêcheurs.
Ah mince, ça marche pas. Attendez, je vais retenter. Voilà. Je vais le remettre au début.
Deux Vaudois pêcheurs sont sur le lac de bonheur. On est heureux, on est comblé dans l'eau, un litron prend le frais. Quand tout à coup le vent se lève et les pousse loin de la grève, les vagues se creusent profondes, la pluie cogne et le tonnerre gronde, la barque est prête à chavirer, leur dernière heure va sonner. On pourrait peut-être prier, s'écrie l'un de désespéré, à quoi l'autre, agrippé au bord, rétorque en un ultime effort, est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de se faire remarquer?
Vous voyez un petit point commun entre les textes? Peut-être que je suis le seul, mais voilà. Encore une fois, ne laissons pas nos sentiments les plus contaminés par le levain des pharisiens, ne laissons pas de diriger notre vie. Cette hyper-scrupulosité qui vient brouiller notre image de Dieu. Pour conclure, la célèbre introspection protestante devrait nous pousser, sinon nous obliger, à nous poser les questions suivantes et tenter d'y répondre. Dans le passé, aurions-nous pu faire mieux? Sans doute, aucun. Avons-nous commis des erreurs? Assurément. Des fautes? Probablement. Est-ce grave? Ce n'est pas à nous de répondre à cette question. Et ces questions-là se posent pour l'avenir. Et les réponses seraient probablement les mêmes. Pour nos erreurs, nous nous efforcerons de ne plus les reproduire et d'en tirer les leçons qui s'imposent. Nos fautes, nous en demandons pardon à Dieu et à nos contemporains, et nous comptons sur leur pardon et leur indulgence. Pour la suite, nous demandons à Dieu un vent ni trop faible, ni trop violent, un souffle de vie, un souffle de l'Esprit. Amen. Cantique 47-20, je me confie en toi, page 751. 751-47-20. Nous restons debout et je vous invite à dire ensemble la confession de foi que vous trouverez dans le livret de fin. La confession de foi numéro 5 qui commence par « Malgré le mal ». Ah non, oui, elle commence par « Nous croyons en Dieu malgré son silence ». Vous voyez, c'est résumé. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous les humains. Mon seul abri, c'est toi. Prenez place. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Thank you. Merci Seigneur pour cette offrande que tu nous permets de faire. Accepte-la comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Quelques annonces.
Bonjour à chacun. Pour une fois, je viens sans papier, donc n'hésitez pas à m'aider si j'oublie des choses. Merci à Anne-Ruth, à l'orgue, et puis à Nicolas et puis Eric à l'accueil. Peut-être qu'il y avait Yvon Serge aussi, non,
non.
Voilà, c'est les annonces de cette semaine. Donc, mardi, il y a la chorale à 19h15 et mercredi, il y a la prière à 18h. Voilà. Sinon, peut-être, pour information, il y a l'EPUF et l'Église protestante unie de France et la Fédération protestantes ont fait des communiqués, donc si vous voulez par rapport aux élections, donc si vous voulez les lire, n'hésitez pas à consulter les sites internet et n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui. Voilà.
Justement, je voulais pas dire quelques mots là-dessus.
D'accord.
Une personne m'a interrogé sur le fait qu'on n'ayons pas fait suivre ces communiqués. On en a beaucoup discuté. Au CP, on en a discuté au CP par voie électronique, et on a pris cette décision, après bien des retournements d'avis, pour une raison très simple. Nous avons été inondés de messages qui nous invitaient à faire barrage, pour reprendre le mot à la mode, contre le Front National. Donc vous l'avez entendu. On l'a reçu de footballeurs, d'artistes plus ou moins connus, on l'a reçu des mutuelles, on l'a reçu, et moi ça m'agace. Ça m'agace parce que je n'ai pas envie qu'un footballeur ou un chanteur dont je n'avais jamais entendu parler me dise comment voter. Je pense que je fais confiance aux électeurs, en tout cas à vous. Nous avons pendant des années annoncé l'évangile, c'est à vous maintenant, en adulte, en responsable, de tirer les conclusions qui sont les vôtres, de voter comme il se doit, en âme et conscience. Nous ne voulions pas ajouter notre... Je pense que chacun est au courant. Peut-être que nous avons eu tort, peut-être que certains pensent que nous aurions dû le faire. Nous aurions blessé des gens le faisant, nous aurions blessé des gens ne le faisant pas. On a choisi cela. Voilà. Ensuite, nous sommes prêts à accepter toutes les remarques que vous jugerez bon de nous faire sur ce point-là. Merci. D'autres annonces, des nouvelles peut-être ?
Personne de Thésée.
Ah, nous avons un frère de Thésée parmi nous. Bienvenue à lui. Bienvenue à chacun d'entre vous, mais on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer quelqu'un d'une communauté. Oui, je t'en prie.
Bonjour. Donc, la chorale continue pendant l'été. Donc, c'est ouvert à tous parce qu'en fait, nous commençons un nouveau cycle. Donc, vous pouvez venir aussi, et puis si vous pouvez venir que l'été, vous venez que l'été, et puis voilà. C'est juste, il y a beaucoup d'activités qui s'arrêtent pendant l'été, donc la chorale, elle continue. Et on a plein de projets pour l'année à venir. Le 22 septembre, on chantera à Thonon. Le 7 décembre, on chantera ici. Et le 22 mars et le 23 mars, c'est lancé. Il y aura 5 jours autour de Bach. Et donc, du 19 au 23 mars, et la chorale sera partie prenante. Donc, vraiment, n'hésitez pas, le mardi à 19h15, il y aura des choses qui se passent ici tout l'été.
Nous allons maintenant partager le pain et le jus de raisin. Donc, c'est du jus, c'est sans alcool, mais par commodité, je l'appellerai vin, par sens liturgique aussi, mais c'est du jus de raisin. Chacun, chacune est invité, s'il se sent appelé à le faire, s'il reconnaît Jésus comme sauveur, quelle que soit sa confession, son appartenance ecclésiale ou sa non-appartenance ecclésiale, et quel que soit son sentiment d'indignité ou de culpabilité. J'espère que vous avez compris que ça n'avait pas lieu d'être ici. Mais on ne se refait pas. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous invite à venir lorsque vous formerez le cercle, pardon, à prendre vos livres de chant, parce qu'il nous reste deux, il nous restera à ce moment-là un cantique à chanter. Si vous le connaissez par cœur, vous pouvez laisser.
Un père avait deux fils. L'aîné était économe et consciencieux, le cadet était insouciant et joyeux. Un jour, le second va voir le père et lui demande sa part d'héritage. Il prend ce qui lui revient et part faire un grand voyage. Il dépense tout son argent menant une vie facile. L'aîné, lui, reste à la maison. Il travaille aux côtés de son père, il le sert fidèlement. Le soir, il ne sort pas pour ne pas dépenser d'argent. Les deux frères vont rencontrer la limite de leur attitude. Pour le cadet, c'est le moment où, ayant épuisé son héritage, il est obligé d'accepter un travail infamant. Il décide alors de retourner auprès de son père et de lui demander pardon, de rester à ses côtés comme un simple serviteur. Pour l'aîné, c'est le moment où il voit son frère rentrer et où il comprend qu'il est accueilli à nouveau comme un fils, alors qu'il n'était plus rien. Il est en colère, il est malade de jalousie. Il boude, il refuse de rentrer chez son père. Les deux frères se retrouveront-ils? L'histoire ne nous le dit pas. Il y en a un qui le veut de toutes ses forces, c'est le père. Quand le cadet est rentré à la maison, il l'attend, il l'accueille, il se réjouit et demande aux autres de se réjouir avec lui. Il prépare une fête. Quand l'aîné refuse de rentrer, il sort et va jusqu'à lui. Il l'écoute, il le réconforte, il lui explique. Il l'invite à participer à la fête. C'est le lieu de la réconciliation. Il est là. C'est le repas que le père a préparé. Parmi nous, certains ressemblent plutôt aux frères aînés. Ils sont fidèles et consciencieux. Ils sont dans l'église depuis toujours. Ils y travaillent avec courage et persévérance. D'autres ressemblent plus aux frères cadets. Ils sont plus insouciants et joyeux. Parfois, ils ont fait un long voyage avant de retrouver la maison du père. Mais n'y a-t-il pas en chacun, chacune de nous, un peu des deux frères? Ce repas de réconciliation est aussi une invitation aux retrouvailles entre l'aîné et le cadet qui se partagent notre maison. Seigneur Jésus, par ton esprit. Donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nous prions. Comme le frère cadet lorsqu'il se retrouve dans un pays lointain sans argent et sans amis. Comme le frère aîné lorsque chez lui il se heurte à sa colère et à sa jalousie. Nous voulons, Seigneur, rentrer en nous-mêmes. Et écouter la vérité sur notre vie. Nous voici devant toi avec toutes les contradictions de nos choix et les limites de notre foi. Nous voici devant toi tels que nous sommes, sans masque et sans maquillage. Aie pitié de nous. Aujourd'hui, tu nous invites au repas, que dans ce pain et dans ce vin que nous allons partager, nous puissions recevoir la grâce et le pardon de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que ce repas nous annonce la bonne nouvelle de la réconciliation et des retrouvailles de ton royaume. Comme le Père attend le Fils et court à sa rencontre pour l'embrasser quand il le voit venir, comme le Père attend le Fils aîné et sort à sa rencontre pour l'inviter quand il ne le voit pas entrer, Dieu est un Père qui nous invite aujourd'hui au repas de sa grâce. Que vous soyez le cadet, que vous soyez l'aîné ou que vous soyez les deux, venez maintenant, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Sauvons malgré nos errances et nos réticences, nous te louons. Pour ta patience en face de nos lenteurs et de nos aigreurs, nous te louons. Pour ta grâce au-delà de nos fuites et de nos faillites, nous te louons. Loué sois-tu parce que tu es un Père qui attend, qui accueille et qui invite. Loué sois-tu parce que dans ce repas, tu nous montres un amour qui n'a pas de limites. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Quand la vie me fait peur avec son cortège de changements, de bouleversements, d'inconnus, tu me dis confiance. Quand j'ai mal dans mon corps, touché par la maladie, que la souffrance et la peine me rendent prisonnier et découragé, tu me dis confiance. Quand l'envie me prend de baisser les bras, lassé par les combats et usé par les échecs, tu me dis confiance. Quand la violence semble le seul message possible, le chacun pour soi la seule réponse, tu me dis confiance. Quand le sourire apparaît, la main se tend, quand le cœur s'ouvre, ton royaume est partagé, tu me dis confiance. Pour que le chemin partagé dans nos églises soit ferment d'unité et témoignage de fraternité, tu nous dis confiance. Dans cet esprit, nous te disons ensemble, notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire.
Amen. Un père de l'Église, Jean Chrysostome, Saint Jean Bouchedoc, disait « Rentrez à la maison et préparez deux tables, l'une avec les plats de la nourriture et l'autre avec les plats de l'écriture. Faites de votre maison une église. Ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ne le garde pas pour toi. Reprends-le, rumine-le, répète-le. Tu es témoin de l'Évangile. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.
Amen.
Tu nous appelles à t'aimer.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.